Bonjour à tous, bienvenue dans Kaléidoscope, une émission mensuelle enregistrée à la clinique de la Chênaie pour vous faire découvrir ce que recouvre le terme de psychothérapie institutionnelle. Aujourd'hui, nous évoquerons l'histoire des clubs thérapeutiques en compagnie de Gwenvaël et Julien, tous deux moniteurs à la Chênaie. Et après la pause musicale, nous continuerons la discussion avec Marianne, dont nous entendrons le témoignage. Mathilde, chargée de production du club, Brigitte et Virginie, toutes deux pensionnaires de la clinique. Gwenvaël, Julien, bonjour.
Bonjour, Véronique.
Bonjour.
Julien, je vais tout de suite te passer la parole pour introduire un petit peu une présentation du club.
Ok. Alors, le club, du coup, c'est une des associations satellites qui gravitent autour de la clinique. Il a pour vocation de faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Il est basé dans le bâtiment qu'on appelle le Boissier, qui est une espèce de grande salle commune qui fait un peu office de salle collective ou de salle des fêtes. Il a été pensé comme un espace de citoyenneté et de convivialité, où on partage des moments tous ensemble. Et le fonctionnement du club, c'est un fonctionnement paritaire, où les équipes sont mixées. Le conseil d'administration est mélangé entre moniteurs et pensionnaires. Concrètement, il y a trois domaines d'action du club. Le premier, c'est de faire vivre les lieux, de faire vivre le Boissier. À travers le bar, la petite boutique, une boutique de première nécessité pour dépanner les gens qui en ont besoin, un lieu où on écoute de la musique, où on joue. Deuxièmement, c'est un lieu où on fait vivre la vie culturelle et citoyenne à la clinique et du coup on se projette aussi petit à petit en dehors avec les concerts qui sont ouverts au public et les différents projets et on en parle notamment pendant les bureaux exécutifs, les fameux BE du club qui ont lieu une fois par semaine. Et on abordera ça dans une prochaine émission plus en profondeur. Et le troisième domaine aussi, le club, il a une vocation de soutien des patients, notamment matériel, avec la location des appartements thérapeutiques dont le club est propriétaire, qui loue aux patients qui sont en hôpital de jour pour les aider à accéder à un appartement. Et du coup, pour envisager une alternance entre un chez eux qui est l'appartement et une hospitalisation à temps partiel où ils viennent certains jours de la semaine à la clinique. Et voilà, on aide aussi matériellement certains patients en leur prêtant des petites sommes en cas de coup dur ou une aide matérielle. Voilà pour les trois axes principaux d'action du club.
Alors, juste pour revenir sur les appartements thérapeutiques, c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que du coup, alors ils sont locataires à part entière, ils payent un loyer, comment ça se passe?
C'est ça. Normalement, ça peut fonctionner sans ces appartements thérapeutiques. Les gens ont leur propre chez eux et viennent certains jours en hôpital de jour, comme on appelle, à la clinique. Mais quand ils ont des difficultés particulières à trouver un logement, on les soutient là-dessus et on leur loue un appartement. C'est souvent des appartements en colocation avec plusieurs personnes. Donc il y a une espèce de travail collectif et d'alliance thérapeutique. Et on est très attentif à la dynamique de groupe au sein des appartements.
Est-ce que les moniteurs passent les voir dans ces appartements, j'imagine, pour déjeuner, dîner, faire des courses ou...
Bien sûr, oui. C'est notamment le rôle des moniteurs qui sont délégués auprès du club et aussi des moniteurs qui sont référents de l'hôpital de jour, qui accompagnent les patients chez eux.
On va aborder maintenant l'histoire des clubs. Voilà, c'est une histoire particulière qui remonte à loin, Gwenvaël.
Oui, effectivement, le premier club thérapeutique, il a été inventé par François Tosquelles, donc c'est un psychiatre catalan. Alors c'est un psychiatre qui a amené beaucoup de choses avec lui. Il était réfugié de Catalogne et d'Espagne, pendant la guerre d'Espagne en fait, puisqu'il était militant au PUM, c'est-à-dire un des partis marxistes ouvriers, et il était responsable, un des responsables de ce... Enfin en tout cas, il avait un grade particulier dans ce parti-là. Il a été amené par exemple à expliquer les consignes du PUM, à écrire des textes officiels sur le PUM pour expliquer ce que c'était. Et donc ce militant-là était condamné à mort à la fois par les communistes et à la fois par les franquistes. Donc en tout cas, voilà, François Tosquelles était un psychiatre militant marxiste qui était familier, par exemple, de concepts comme la collectivisation des terres pour les paysans. Et quand il est arrivé en France vraiment comme réfugié, il a d'abord été dans un camp de concentration, puis pendant quelques semaines, puis il a été recueilli dans l'hôpital de psychiatrique de Saint-Alban, qui est un hôpital isolé dans la montagne en Lozère. Et à partir de là, il a été vraiment recueilli comme réfugié, mais sa pratique a intéressé les psychiatres. Il a amené deux choses à la psychiatrie française, à la fois les clubs thérapeutiques. Donc il a créé le premier, il est arrivé en 1940, et il a créé le premier club thérapeutique en 1942. Et il a amené autre chose aussi, qui se prêtait au lieu de Saint-Alban, c'est la psychiatrie territoriale. L'idée de sortir de l'asile et de faire une psychiatrie proche des gens où ils sont, là où ils vivent, et que ce soit de penser différemment la prise en charge pour être auprès des gens dans la cité ou dans les campagnes, et pas seulement de les hospitaliser sur le seul mode de l'asile, dans un lieu unique, carcéral, etc. Et donc il a amené ces idées-là, et en particulier pour le club, pour ce qui nous intéresse. Alors la psychiatrie territorialisée, c'est ce qui amènera plus tard la psychiatrie de secteur, et c'est vraiment ce qui organise les politiques publiques de psychiatrie depuis les années 70 en France. Parce que cette idée a fait du chemin, évolué au fur et à mesure, notamment avec un groupe de psychiatres progressistes dont faisait partie Tosquelles et des sympathisants. Et autre chose qu'il a amené, c'est le club thérapeutique, avec l'idée de restituer aux patients internés dans les asiles, dans les hôpitaux psychiatriques, de leur restituer du droit, et notamment l'accès à la propriété, puisque depuis la loi qui était en vigueur, la principale loi en vigueur à l'époque, c'était la loi de 1848, qui retirait à tous les patients internés, dès lors qu'ils étaient internés en asile, le droit à la propriété. Et François Tosquelles a détourné les choses. D'abord, il s'est aperçu que le droit français, le droit d'association, autorisait tacitement, en tout cas implicitement, n'interdisait pas les patients internés à s'associer, à se mettre en association. Donc ça, c'était une surprise pour lui. Et deuxièmement, il a créé une association par et pour les patients, avec l'idée de créer une vie sociale à l'intérieur de l'hôpital. Ça s'est accompagné de tout un tas d'avancées humanistes, par exemple scier tous les barreaux aux fenêtres, ou abattre un certain nombre de murs de murs d'enceinte, des cloisons qui bloquaient les gens. Et puis plus tard, quand il deviendra, après avoir repassé ses diplômes, quand il deviendra directeur, alors il a fait des cours déjà pendant la guerre, des cours aux infirmiers qui sont édités en livres qu'on peut trouver. Et notamment dans la couverture d'un de ces ouvrages-là sur les cours de Tosquelles aux infirmiers, on peut lire « Tout infirmier ou infirmière qui aura camisolé ou aidé à camisoler un patient sans l'accord explicite du directeur sera licencié immédiatement ». Donc ça donne un petit peu l'ambiance et l'exigence qu'il a voulu donner à la psychiatrie pour changer les pratiques de l'époque. Et donc il a créé le premier club pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des enjeux à l'époque, il y avait un enjeu de taille, c'était que le rationnement alimentaire a fait énormément de morts dans les asiles. Alors déjà dans la population civile, c'était pas simple du tout, mais les restrictions étaient encore plus sévères dans les asiles, et du coup des dizaines de milliers de patients sont morts par mort de faim, de carence alimentaire, par cachexie comme on dit, et donc on évalue ce nombre à 47 000 à peu près, vraiment entre 45 et 50 000 patients qui seraient morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Notamment, une des patientes connues à l'époque, c'était Séraphine de Senlis, qui était une peintre connue, qui est morte de faim dans ces conditions-là. Et puis Antonin Artaud, qui lui a failli mourir. Il a vraiment connu la faim, et puis il a changé d'hôpital plusieurs fois pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à arriver à Rodez, où il a pu écrire ses derniers écrits de Rodez, qui sont très connus. Voilà. En tout cas, le contexte était vraiment très douloureux, et créer le club psychiatrique dans cet environnement-là, l'objet c'était de permettre aux patients simplement de se nourrir, c'est-à-dire les autoriser à travailler dans les fermes aux alentours, à troquer leurs propres rations qu'ils avaient. Alors, ils avaient des rations d'alcool, par exemple, et donc s'organiser pour troquer de l'alcool contre de la nourriture, puisque c'était ça la priorité. Et puis, il y avait à la fois, à l'époque, on appelait ça des pavillons, pavillons d'hommes, pavillons de femmes, etc. Les femmes, par exemple, avaient tout un atelier où elles faisaient du tricot, des pièces de tissu qu'elles fabriquaient. Donc, il s'agissait d'échanger tout ce qu'elles pouvaient produire ou tout ce que les hommes pouvaient produire de leur côté pour de la nourriture. Et une des activités du club, c'était par exemple de faire un atelier reconnaissance de champignons pour aller profiter de l'environnement en plein dans la nature pour aller chercher les champignons. Voilà. Et petit à petit, après-guerre, mais déjà après-guerre, il y avait des choses du côté du divertissement, y compris pendant la guerre, ce qui est assez étonnant. Mais après-guerre, ça a été encore plus loin, avec beaucoup de kermesses, de fêtes, de conférences, c'est-à-dire qu'on autorisait les patients qui s'y connaissaient, il y avait des spécialistes de Napoléon ou autres, des patients pouvaient faire des conférences sur ce qu'ils connaissaient.
Est-ce que ça veut dire que les patients pouvaient sortir aussi dans la cité ? Est-ce que les gens de l'extérieur pouvaient venir dans l'hôpital ? Comment ça se passait ?
Alors en fait, Saint-Alban, c'est à la fois, il y a l'hôpital psychiatrique qui est juché, c'était un ancien petit château, et c'est un tout petit village à côté qui doit faire à peu près 300 âmes, et la plupart des Saint-Albanais travaillent pour l'hôpital psychiatrique à l'époque, fournissent la main-d'œuvre, que ce soit hommes et femmes, de père en fils, enfin, c'est vraiment le premier employé, premier employeur local, c'est l'hôpital psychiatrique. Il y avait à l'époque quand même, mais on est vraiment dans les années 40, avec tout ce que ça comprend à la fois de la guerre et du milieu du 20e siècle, et une ambiance particulière de courriers de dénonciation, mais qui existait déjà avant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Il y avait des petites choses comme ça, des mauvaises habitudes de campagne qui sont liées à la France rurale, vraiment du milieu du siècle, et qui se sont estompées au fur et à mesure, notamment grâce aux échanges effectivement qu'il y a pu y avoir, une moindre méfiance des habitants vis-à-vis des patients. Petit à petit, il y a eu, jusque dans les années 60-70, il y a eu un travail en commun, un enthousiasme à aller à participer de cette aventure-là qui était Saint-Alban, et qui, à partir de la Libération, a rayonné dans le milieu de la psychiatrie, en tout cas pour les jeunes psychiatres. Il y a eu des jeunes psychiatres militants qui avaient autour de 30 ans ou un peu moins, qui se retrouvaient, du fait de la Seconde Guerre mondiale, responsables d'un gros hôpital psychiatrique. Et les jeunes ont rapidement vu que Saint-Alban était un modèle à suivre, parmi d'autres, c'était pas le seul, mais parmi d'autres. Et notamment d'autres psychiatres assez connus, Georges Daumaison, qui travaillait à Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans, et puis aussi Henriet à Bonneval, ont créé rapidement un club thérapeutique dans leurs propres établissements, à Bonneval, à Fleury-les-Aubrais, et puis d'autres, Paul Civadon ailleurs, près de Paris, etc. Donc Saint-Alban est devenu le modèle à suivre, pour d'autres raisons aussi, parce que c'est dans ce contexte-là, Saint-Alban a permis aux patients de faire des œuvres d'art, et d'être un des creusets de l'art brut. C'est là notamment qu'était interné Auguste Forestier, qui est connu comme un des principaux représentants de l'art brut. Et Saint-Alban fait partie des lieux importants où l'art brut a pu s'exprimer, et notamment en partie par un renversement qu'a fait Toscaillès, c'est-à-dire que les patients étaient dépossédés du droit à la propriété, y compris de ce qu'ils produisaient, et dans les statuts de l'établissement, et dans le rôle qu'a donné François Toscaillès au club, il a dit, dans le règlement antérieur, les patients n'ont pas le droit de posséder le produit de ce qu'ils font, sauf s'ils le produisent avec des outils qui leur appartiennent. Et donc, il a répété la loi pour dire, on applique la loi de cette façon-là. Or, le but du club thérapeutique qu'il a créé, c'était justement de donner aux patients tous les outils dont ils avaient besoin, pour les ateliers, aussi bien pour produire de la cordonnerie que du dessin, que de la sculpture, etc. Et donc il a renversé, il a un petit peu subverti la loi pour permettre aux patients d'être propriétaires de ce qu'ils produisaient et de leur redonner du droit de ce point de vue-là. Donc on voit un petit peu la touche marxiste derrière cette idée-là.
Juste pour encore préciser les choses, est-ce qu'on commence à ce moment-là à parler clairement de psychothérapie institutionnelle ?
Non, 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 le mot il viendra en 1952 avec Georges de Maison. C'est lui qui va créer le terme. Et à la fois, alors ça tournait autour de plusieurs mots. Les psychiatres cherchaient un mot d'ordre un petit peu pour se rassembler. Ils étaient une quinzaine de psychiatres déjà au début des années 50 et à la fin des années 40 à réfléchir à ça. Ce qui est rigolo, c'est que de Maison, c'est lui qui va donner le mot de psychothérapie institutionnelle, qu'on va appeler après psychothérapie institutionnelle première manière. Or, il le fait dans un article en disant, mais le modèle de tout ça, ça vient quand même de plusieurs psychiatres qui se revendiquent tous de ce qu'a fait Toscaïès à Saint-Alban. Et donc, les deux pères de la psychothérapie institutionnelle se renvoient la balle à ce moment-là. Plus tard, au cours des décennies, il y a des petites rivalités qui vont se faire, et de Maison va mal accepter le fait que la psychothérapie institutionnelle soit à nouveau revisitée par Toscaïès, qui va remettre de la psychanalyse, remettre de la compréhension psychanalytique dedans, notamment de la psychanalyse de groupe aussi, avec une notion de transfert, contre-transfert. Et puis, il y a Jean Houry dans Loir-et-Cher à la Borde qui va beaucoup travailler dans cette direction-là. Et de Maison, qui n'était pas favorable à la psychanalyse, va avoir, après une très très longue amitié de plusieurs décennies, va nourrir une légère jalousie à l'endroit de Toscaïès, puisque il va jusqu'à écrire que Toscaïès a dévoyé son projet à lui, qui était surtout occupationnel. Remettre de l'action, voilà, de Maison, c'était quelqu'un qui avait fait Les Éclaireurs de France, il était beaucoup extrêmement dynamique, et il voyait l'aspect, le bénéfice à l'action, mais moins le bénéfice à la lecture psychanalytique, transférentielle, que Toscaïès, Georges de et Jean Houry vont amener.
Il nous reste 2 minutes avant la pause musicale. Je te passe la parole, Julien.
Oui, je tenais juste à insister du coup sur l'importance de la liberté de circulation qui est centrale dans le mouvement. La clinique a été pensée comme un lieu géographiquement éclaté où les gens circulent d'un point à un autre. Et la fonction du club et du boissier, c'est surtout d'attirer et d'en faire un lieu central où on se rejoint et on se croise. Et c'est vraiment central dans l'idée du mouvement d'être une psychiatrie ouverte, sans mur, où les gens circulent.
Gonvel, un petit mot de conclusion sur cette partie?
Oui, un autre aspect sur le plan historique qu'on peut ajouter, c'est que la forme du club a évolué, soit en forme d'association unique qui vient un petit peu contrebalancer la hiérarchie de l'établissement psychiatrique, c'était comme ça que ça avait été pensé. Et puis au fur et à mesure, Toscaïès va essayer d'organiser les clubs thérapeutiques en fédération, et donc il va s'appuyer sur le travail de deux personnes, Pierre Doucinet et Alice Delaunay, qui avaient pensé à créer la fédération des Croix-Marines. Et c'est-à-dire, ils avaient pensé que le symbole des Croix-Marines pouvait, à l'instar de la Croix-Rouge, de la Croix-Verte des pharmacies, ils avaient choisi ce symbole-là, bleu marine, pour représenter la santé mentale et la réinsertion des personnes hospitalisées en psychiatrie dans la société. Et donc Toscaïès, en 1947, il a modifié un petit peu son travail et il a fait en sorte que le club soit intégré à cette fédération-là des Croix-Marines, en disant que c'était un peu le cheval de Troie pour atteindre la psychiatrie publique et pour faire en sorte qu'un maximum d'établissements à l'échelle nationale puissent créer leur club thérapeutique. Et c'est ça a beaucoup favorisé la propagation des clubs thérapeutiques dans toute la France. Et donc ce modèle-là a porté. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux pour ces éclaircissements. On se retrouve avec sur le plateau de Studio Zef très et beaucoup plus étoffé, hein, puisque on va retrouver Mathilde, Virginie, Brigitte et puis Marianne, dont on entendra donc, je disais, le témoignage. Mais tout de suite, une petite pause musicale.
Won't you please come home? The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo.
buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. Chest by the door, and one of Jimmy's friends has taken the floor. Jimmy, won't you please come home, where the grass is green and the buffaloes roam. Dear old Jimmy, forgot you're young, but you can't ignore the buffalo song. Used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do.
Je suis Marianne, la doyenne des membres actifs du Club de la Chênaie. Tout d'abord, je tiens à rendre hommage à toutes les personnes, celles d'hier et celles d'aujourd'hui, qui ont contribué et participé, qui contribuent et participent à la vie du Club. Un grand merci en premier lieu au docteur Claude Jean Girard, médecin fondateur de la clinique et du Club, qui nous a quittés l'été dernier. Je veux aussi honorer la mémoire de Jean-Claude Denis, dit Coco, d'André Leclerc et de son fils Jean-Claude, qui m'ont accompagné sur mon chemin de vie et sans la bienveillance desquels je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. Tous trois moniteurs à la Chênaie étaient de fervents adeptes de la psychothérapie institutionnelle. Depuis mon premier séjour et jusqu'à leur disparition, j'ai gardé des contacts avec eux, établi des liens très forts et leur amitié m'était très précieuse. En 1972, lorsque je suis arrivée à la Chênaie, je n'ai découvert qu'en quittant la clinique l'existence du club en tant qu'entité particulière. À l'époque, j'habitais Paris. On m'a informé qu'il y existait un lieu intitulé le Club à Paris, où se tenaient des permanences. On pouvait y rencontrer d'anciens patients, des moniteurs, des médecins. L'accès en était libre. Des ateliers divers y étaient proposés, des groupes de parole, des rendez-vous médicaux. Je venais m'y ressourcer, consolider l'étayage de mon mieux-être. J'y retrouvais le même état d'esprit de partage, de solidarité, de libre expression citoyenne, d'incitation à prendre des responsabilités. Ce même état d'esprit que celui découvert à la Chênaie, qui faisait toute la différence avec les institutions psychiatriques que j'avais connues auparavant. Dès le premier jour, la beauté du site, l'accueil chaleureux qu'on m'y a réservé, m'ont décidé à rester m'y soigner. L'accueil était alors fait conjointement par un patient et un soignant. Je découvrais une micro-société où l'on m'accueillait sans me juger, où le respect de l'autre était de rigueur, où de nombreuses activités m'étaient proposées, où je pouvais me rendre utile, un lieu où la tolérance vous enveloppait d'emblée. J'étais toute démolie, et pourtant, j'étais considérée comme une personne à part entière, et pas seulement comme une personne malade. Pas de blouse blanche. C'était magique. Si je ne savais plus vraiment qui j'étais, si j'étais sans désir, celui de devenir chénéenne s'est imposé à moi. À l'époque, les soignants venaient d'horizons divers et variés. Des artistes, des philosophes, des sociologues, beaucoup d'autochtones, paysans, artisans, ouvriers ou d'autres sans qualification particulière ou du moins répertoriée. Quelques infirmiers psychiatriques et bien sûr des médecins. Pas de statut différencié, pas de clivage apparent. Tous participaient au bon fonctionnement de la chaîne. J'en veux pour preuve l'assemblée plénière du samedi matin, obligatoire pour tous les chénéens. Seule une personne de permanence au secrétariat médical n'y participait pas. Pas d'ordre du jour, la parole était libre, chacun pouvait la prendre. C'était une assemblée citoyenne surréaliste, mais ô combien riche d'enseignements pour qui savait écouter et entendre. Le club avait pour mission, dans un réalisme humaniste, d'intervenir dans l'institution pour en traiter l'ambiance, en déstabiliser les tabous et les habitudes. Il avait pour principe l'expression de tous, répercutée dans l'institution, la disparition des références statutaires et hiérarchiques, l'exercice d'une solidarité bienveillante et la pratique, autant que faire se peut, d'une démocratie réelle dans les choix portant sur la vie quotidienne et les projets relatifs à la vie commune. Tous les chénéens étaient membres du club. À l'époque, il n'y avait pas d'adhésion. Aujourd'hui, le rôle du club reste le même, tout au moins dans ses objectifs déclarés. Cependant, il est confronté au paradoxe d'une organisation qui se voudrait non pyramidale, non hiérarchisée, mais dont les lourds engagements, parc immobilier, organisation de concerts, ne peuvent se soustraire aux exigences gestionnaires, administratives et financières. C'est une grosse machine qui peut faire peur à l'endroit où la fonction première serait de susciter le désir. Mais le monde a changé. Comme le club, la clinique se confronte à de nouvelles contraintes administratives, comptables et de gestion des soins. Les injonctions technocratiques gouvernementales à vouloir tout évaluer, tout quantifier, tout compartimenter, réduisent l'espace de créativité et de convivialité au sein de la chaîne. Cela a pour conséquence de rendre plus complexe l'exercice de la psychiatrie institutionnelle, de la psychothérapie institutionnelle. Mais quand bien même, cet espace demeure à la chaînée. Et s'il est critiquable, il l'est pour le parfaire et non pour le détruire. La notion de collectif n'est plus la même. Il est plus facile pour chaque chaînéen de se réfugier derrière son statut. Le clivage est perceptible. La parole circule moins librement, les lieux collectifs qui lui sont réservés sont peu investis, au profit d'échanges par groupe d'affinités, au profit de fantasmes et de critiques qui se diffusent de façon insidieuse, peu constructive pour la bonne santé des chénéens. Ces propos, bien sûr, n'engagent que moi. Mais je me réjouis de constater que certains nouveaux embauchés sont sensibles à ces dérives. Avec les anciens, ils s'emploient à chercher et trouver de nouvelles ouvertures, de nouveaux stratèges. Ils sont conscients de l'intérêt à maintenir contre vents et marées, dans une version modernisée et adaptée au contexte actuel, les principes de la psychothérapie institutionnelle, au profit et pour le bien-être de tous les chénéens. En ce début d'année, je les assure de mon soutien et leur adresse tous mes souhaits de réussite dans cette courageuse et belle entreprise à laquelle je participe et qui ensoleille mon quotidien.
Voilà, c'était votre témoignage, Marianne. Mmh. Alors, en effet, hors micro, vous disiez que vous étiez très émue. Ça s'entend, effectivement. Oui. Mais j'imagine qu'un parcours de vie comme ça, ça ne peut susciter que de l'émotion. Il y a quelque chose qui m'a frappée. Vous avez dit, j'étais toute démolie, mais on m'a considérée comme une personne à part entière.
Et c'était la première fois que je ressentais ça.
C'est ça.
Voilà.
Brigitte ?
Oui.
Ça vous inspire quelque chose, j'ai l'impression. Hein.
En écoutant les mots de Marianne, je me dis que oui, les années ont passé, mais il reste toujours difficile de trouver sa place en tant qu'individu et de s'insérer dans le collectif. Des possibilités sont offertes, des activités proposées, mais trouver sa propre place en se sentant respecté dans sa singularité. Et c'est quelque chose, moi, que j'apprends au quotidien, étant hospitalisée. C'est une découverte vraiment au quotidien en fonction de l'état dans lequel je suis, de la fragilité du moment. Et certes, il y a des propositions qui sont faites de toutes parts, mais une journée, ça n'est que 24 heures. Et vraiment, je lutte contre moi-même. Je lutte pour tenir debout, je lutte pour retenir ce qu'on me dit, je lutte pour pas sombrer de sommeil et me réfugier sous la couette. Je lutte pour m'inscrire dans le collectif modestement et je vais m'y employer demain, faire un peu de standard et un peu de pliage de vêtements à la buanderie. S'investir, sacré mot s'investir, parce qu'on donne de soi, on donne de son temps, on essaie de réfléchir aux contraintes qui nous sont données. Mais nous, mais moi là-dedans, j'y trouve quoi ? Elle est où, Brigitte ? Il y a le soin, il y a les pilules qu'on avale, les horaires à respecter, il y a les règlements, il y a tout ça, mais mon espace à moi de liberté, les moments perso que moi je décide d'avoir, d'aller dans le jardin à une heure où j'ai envie d'aller moi dire bonjour aux poules ou cueillir des fleurs en hiver, cette journée de 24 heures, je m'interroge vraiment, la part d'individu, elle est à nous, elle nous appartient. Mais on doit composer avec le collectif. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, surtout quand on n'a pas tous ses moyens, toute son énergie. Voilà. Donc, fait écho en moi,
ouais,
les mots de Marianne, parce que quand elle a dit « j'étais toute démolie », il y a des gens autour qui sont là pour nous remettre debout quand on est bancal. Mais dans la tête, ça travaille, ça réfléchit. Et les émotions, elles sont là quand même. Donc, pas évident de composer avec tout ce kaléidoscope d'émotions. Voilà ce que j'ai envie de dire.
Julien, tu voulais réagir aussi ?
Oui. On est conscient en étant chénéen et en faisant partie du mouvement de la psychothérapie qui a une longue histoire derrière nous et une histoire des pratiques et de la vie ensemble. Et les témoignages sont rares et c'est vachement riche et précieux d'avoir ton témoignage, Marianne. Et notamment les critiques que tu as pu faire avec ton regard des pratiques d'avant. Et c'est très constructif aussi de ne pas faire simplement le constat d'un avant qui était forcément mieux et qui est perdu. Et ça me pose la question parce que le club a fêté ses 60 ans cette année et on peut se poser cette grande question de quel sens ça a d'avoir un club thérapeutique 60 ans après sa création. Quelle est sa vocation ? Est-ce qu'elle a changé avec les patients qui sont différents, les moniteurs qui sont différents, les ambitions de chacun ? Tu en as très bien parlé aussi, les contraintes qui sont nouvelles, qui s'accumulent de plus en plus, qui nous sont imposées par nos autorités de tutelle. C'est quelque chose qui évolue en permanence.
Justement, à propos de ces contraintes, elles sont vraiment, pour parler un peu trivialement, c'est de pire en pire. Hein. C'est-à-dire
bien
que
sûr.
C'est, oui, vous, vous pouvez constater au quotidien qu'il y a des, donc, comment dire, des, par exemple des coupes budgétaires, enfin ce que tout le monde, les établissements spécialisés, tout le monde se plaint de ça, par exemple. Voilà.
Après, il y a toutes ces contraintes administratives, mais il y a aussi que la vie a changé, qu'on est dans un autre monde, le monde de 2009. Ce n'est pas celui de 1972.
Ça, c'est sûr.
Voilà. Des exemples très concrets. Ouais, manger les fruits et les légumes qui poussent dans le jardin, au niveau collectif, c'est quelque chose qui n'est plus possible.
Et pourquoi ça ?
Pour les pensionnaires, par exemple, il y a une époque où c'était eux qui conduisaient les véhicules de la clinique. Aujourd'hui, pour des raisons d'assurance, des choses comme ça, ça n'est plus possible. Ça peut paraître des petites choses, nous, dans notre quotidien, mais en fait, au niveau de la psychiatrie institutionnelle, c'est énorme.
C'était énorme. De pouvoir conduire les voitures, c'était extraordinaire. Moi, je faisais le chauffeur aussi et j'adorais faire ça. Parce qu'on allait chercher des gens à la gare, des gens qui venaient rendre visite à la Chênaie. C'était génial.
Oui, Gwen Valère.
Oui, en fait, maintenant, tout se passe comme si, bon, du point de vue des politiques publiques, en tout cas de ceux qui les rédigent, ce qui est aux manettes, ce qui a du poids, c'est notamment tout l'aspect administratif et légal et juridique. Et il faut, pourquoi maintenant ce n'est plus autorisé, par exemple, de conduire des véhicules ou simplement de manger des simples fruits qu'on peut cueillir dans le jardin, en tout cas à la clinique, ce n'est plus autorisé parce que légalement, l'État décide que chaque établissement doit se protéger de toute plainte, d'où qu'elle vienne.
Oui, on ouvre les parapluies, quoi.
Et voilà. Et donc, à force de se protéger, en fait, c'est une logique qui, au sens, d'après ce que je comprends du mouvement de la psychothérapie institutionnelle, le mouvement est là pour dire que ça ne doit pas être la seule logique. Il y a une autre logique à prendre en compte, c'est celle de vivre ensemble et de la convivialité. C'est-à-dire que le club est là et il a une fonction sociale qui a un poids réel et qui sert réellement dans la vie des personnes qui sont hospitalisées, c'est qu'il y a un bien commun à partager, qui est le vivre ensemble, et que ça ne se décide pas comme ça sur un coin de table, on écrit un mot et puis ça marcherait tout seul. Le club, c'est assez étonnant, mais il nous démontre que c'est un processus et qu'on a besoin de l'éprouver, on a besoin d'en faire l'expérience. Brigitte disait à l'instant trouver sa place dans le collectif c'est pas simple, mais c'est pas simple ni du côté patient pensionnaire ni du côté soignant, moniteur ou autre adhérent du club.
Mais est-ce que vous vous confrontez enfin, j'ai envie d'appeler ça un fléau, c'est-à-dire un discours d'un côté économique et en face, vous avez un discours humain. Quand vous disiez, Marianne, que le monde a changé, il a peut-être changé aussi par rapport à ça, par rapport à cette difficulté de faire le lien entre un discours économique et un discours social.
Mais du coup, je crois solidaire. Que le club, il est là pour faire le tampon, justement. Il faut qu'on arrive à maintenir ça entre la clinique, effectivement, qui a toutes ses côtés administratifs, ses contraintes, et la société. Et le club, il est là justement pour temporaliser un petit peu tout ça et garder cet espace un peu de fraîcheur et de... Ouais. Voilà, c'est ce qu'on essaye de garder quand même au niveau du club.
Mais est-ce que concrètement, vous avez un moyen des moyens de, entre guillemets, contre-pouvoir ? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez revendiquer ce que tu viens de dire, ce que vous venez de dire tous, du côté de l'humain, de la citoyenneté, etc. Est-ce que concrètement, vous avez... Il y a des institutions où les gens sont syndiqués, donc il y a une instance représentative qui peut aller plaider une cause. Concrètement, vous, qu'est-ce que vous avez comme moyen, Marianne?
C'est notre objectif d'avoir un contre-pouvoir, mais c'est pas évident à exercer. Voilà. Mais moi, je suis pas dans la nostalgie, ce qui a été, parce que néanmoins, ça demeure quand même, voilà. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire.
Ça va revenir, je vais passer la parole à Virginie.
Oui, suite à votre question, et si seulement le contre-pouvoir était le mieux-être humain, ce serait merveilleux. Voilà, si ça pouvait se quantifier comme ça, voilà, faire demander à tous les gens, tous les pensionnaires ici, même les soignants, surtout les pensionnaires, s'ils j'éprouve un mieux-être à être ici, voilà, ou partout on pratique la psychothérapie institutionnelle. Je sais que c'est très utopique hein, ce que je dis, mais si ça pouvait se quantifier en mieux-être, épanouissement personnel, partage, échange, voilà, je sais, c'est un peu le pays des bisounours, mais ce serait bien que ça puisse, parce que nous, enfin, c'est vraiment, quand on vient ici, c'est quand même le but, quoi. C'est notre but à nous. Pensionnaire, enfin, voilà.
Votre discours est tout à fait légitime. Hein. C'est pas du tout utopique puisque ça peut se passer. La preuve ici.
Et depuis quelques années, il y a quand même un rassemblement des clubs thérapeutiques en France via le fameux truc, le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs. Ils se réunissent plusieurs fois par an. On participe d'ailleurs à ces rencontres et justement toutes ces questions là sont abordées. Ça fait du bien de sentir que on n'est pas tout seul à se poser ces questions-là. Et du coup, il y a beaucoup d'échanges. C'est,
Oui, c'est vrai que. Alors, ça veut dire que les autres, justement, les autres structures, les autres clubs se posent les mêmes questions.
Oui. Hein, oui. Vous avez... Et puis, aussi, ça permet d'échanger. Il y a des clubs qui sont plus ou moins structurés. Mm-hmm. Et ça permet d'apporter nos expériences, nos connaissances, d'échanger des envies, des projets peut-être aussi.
Ce qui est différent, c'est qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus compartimentées.
Oui.
Je veux dire, en 72, on avait vraiment l'impression qu'il y avait un réel collectif. En tous les cas, il y avait un collectif de soignants. Il existait vraiment. Ce qui faisait aussi la différence, c'est qu'il y avait des gens qui venaient de tous horizons, de tous bords, et même parmi les patients, je veux dire, voilà, il y avait des gens qui avaient tous les symptômes qu'on peut rencontrer aujourd'hui, mais il y avait aussi des gens de différents horizons. C'est plus non plus tout à fait la même population aujourd'hui, et tout ça, ça complique les choses, hein, c'est pas voilà.
En tout cas, ça demande une certaine réadaptation.
Oui, bah oui, ouais,
qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est ça.
Mais il y a plein de gens qui continuent à s'y employer à la chaîne. Ah, oui. C'est merveilleux.
J'imagine. C'est ce que vous disiez aussi. Hein. Ouais. Alors, le temps passe, encore une fois, ça file. J'aimerais bien que vous disiez quand même un mot sur les activités, concrètement, par exemple les concerts, les activités du club. Mathilde, tu présentes ça ?
Les concerts, c'est une activité importante du club. Depuis les débuts, je crois, du club, il y a toujours eu des musiciens qui sont venus... jouer au Boissier, et c'est une activité qui perdure encore aujourd'hui. On propose une vraie saison culturelle à Chaille, et l'idée, c'est de faire ça avec, évidemment, les Chénéens, pensionnaires et moniteurs de la Chénée. Donc, on propose un spectacle par mois, ouvert aux gens de l'extérieur. Et puis après, en interne, il y a des artistes qui viennent en résidence travailler. On propose le lieu... comme un espace de travail pour les artistes, et puis ils sont en immersion avec nous pendant une semaine, voire un petit peu plus. Ce que je voulais dire par là, c'est que donc les soignants sont là pour aider, soigner les pensionnaires, le club est là pour soigner l'institution, et nous on s'aperçoit que c'est les artistes qui nous soignent. Ça nous fait du bien quand ils sont là, et je crois que c'est assez réciproque, ils adorent venir. Donc voilà, en général c'est des très bons moments. Et puis la fameuse fête de la Chénée, peut-être qu'on peut en parler. C'est le moment où c'est une espèce, je sais pas si c'est porte ouverte, carmès, je sais pas, un grand moment où on ouvre les portes de la Chénée, où il y a plein d'animations. C'est un moment festif, familial, convivial,
champêtre
qui se passe au mois de juin, tous les ans.
Et quand tu disais les concerts, donc c'est une fois par mois, c'est uniquement les spectacles, c'est uniquement musical. Hein. C'est que de la musique ou ça
non.
peut être aussi du théâtre ?
Ça peut être, ouais. Ça peut être du théâtre. Par exemple, l'an dernier ou il y a deux ans, on a accueilli la Méningite des Poireaux, justement. C'était un spectacle sur la psychiatrie institutionnelle. On avait fait venir ce spectacle avec les clubs de Labor, de Sommery et Château-Renaud. C'était un très bon moment. Et puis on organise aussi parfois des spectacles en dehors du Boissier. Ça nous est arrivé de faire un spectacle à Sœur, là où on a l'auberge de Sœur. Au mois d'avril, on va proposer un spectacle dans l'église de Chailles, en partenariat avec la mairie de Chailles. Et puis on fait évidemment des partenariats avec d'autres salles de spectacle. On a travaillé avec les lobbies, avec le Château d'Eau, la Lograin évidemment. Voilà, le club c'est vraiment la passerelle sur l'extérieur, c'est faire du lien et aussi au niveau culturel avec d'autres structures, avec d'autres associations, Roxette évidemment. Voilà ce que je peux en dire brièvement.
Tu parlais de ce lien avec l'extérieur, du coup, du côté pensionnaire, ce qui est riche, c'est que ça ouvre vers l'extérieur avec des artistes qui viennent les voir. Ouais. Et pour les gens de l'extérieur, ça leur permet de rentrer dans la clinique, de rencontrer les gens sans savoir qui pourrait être patient, qui pourrait être soignant. On rencontre d'abord François, Martine, avant de rencontrer un patient ou un infirmier. Et ce qui est, c'est très riche et ça se passe vraiment dans les deux sens. C'est pour ça qu'on essaye de multiplier ces scènes un peu extraordinaires à travers les fêtes et les concerts. Je rajouterais aussi une autre chose que le club propose aussi, c'est les nombreux ateliers parmi, au sein de la clinique qui ont lieu toute la semaine. Il y en a une grande diversité. On a des ateliers musicaux où on peut jouer ensemble, du théâtre, les ateliers bibliothèques, le dessin, la peinture. Tout ça, c'est des outils aussi qu'on propose aux patients et qu'on essaye d'adapter. On passe pas mal de temps à réfléchir à qu'est-ce qui serait bénéfique pour tel patient à travers tous ces outils.
Et alors, autour de ces ateliers, est-ce qu'il peut y avoir à l'occasion, justement, des gens de l'extérieur qui viennent animer un atelier ou c'est plutôt vraiment les artistes qui viennent en résidence et puis...
Oui, il y a des intervenants qui viennent, effectivement. On a pour la gym, la Feldenkrais,
oui, par exemple.
Pour le chant, l'atelier voix, effectivement.
C'est régulièrement fait, l'atelier voix par quelqu'un de l'extérieur. Donc oui, ça peut arriver. Mm.
On a à la fois des artistes professionnels, mais nous aussi, en tant que professionnels et que moniteurs, on a la capacité de pouvoir s'exprimer aussi dans une démarche artistique. Par exemple, en faisant de la musique avec le groupe, le collectif. Et donc voilà, il n'y a pas que des artistes professionnels. Mmh. Chacun peut révéler, moniteur ou pensionnaire, sa fibre artistique.
Mesdames, Virginie, Brigitte, Marianne, est-ce que vous... Alors, à quoi vous participez dans les ateliers, si vous participez? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est de temps en temps? Comment ça se passe pour vous?
Pas trop souvent,
ouais.
Parce que je suis au conseil d'administration. Et je m'occupe plutôt, effectivement, quelquefois de l'administratif, parce que c'est bien beau de prendre des décisions, mais après, il faut les mettre en application. Et que, quelquefois, la parité, c'est compliqué, parce que, après, il faut les exécuter, les décisions. Et, Alors, je suis souvent confrontée à ça. C'est pas ce qui me plaît le plus, mais il faut le faire, donc voilà.
Tu viens au comité de programmation souvent.
Mais je viens au comité de programmation,
j'adore.
Oui.
Ouais.
Mais je suis venue à l'atelier radio. Et puis ça me plaît bien. Et puis je compte bientôt aller à l'atelier Feldenkrais parce que ça, ça va me faire du bien physiquement.
Qui est la gym douce.
C'est ce que j'allais demander parce que je. Oui. Alors gym douce. Alors c'est une méthode particulière.
Oui.
C'est...
Oui. Je ne saurais pas l'expliquer, mais Brigitte qui...
Ah, Brigitte.
qui le côtoie.
Éclairer notre lanterne.
Je ne vais pas développer ce qu'est le Feldenkrais, mais je peux seulement vous dire que ça fait énormément de bien.
C'est de la gym douce.
C'est de la gym douce. Donc, en fait, les mouvements ne sont pas aussi amples, par exemple, que le yoga. Ce sont de tout petits mouvements. Et ce qui m'a beaucoup surpris lors de ma première séance, avec Mireille qui nous enseignait de sa voix douce et attentive à nos mouvements les uns et les autres, c'est la douceur. Comme quoi de simples petits mouvements répétés en y réfléchissant et en suivant les consignes de Mireille, Mais alors, détendre à un point, en une demi-heure, moi je suis sortie, j'étais sur un nuage. Je respirais, j'avais les mâchoires décrispées. Je me dis, mais c'est une magicienne. Donc dorénavant, le mardi matin, de 10 à 11, je ne raterai plus aucun Feldenkrais. Et aujourd'hui, nous sommes mardi. Je me suis dépêchée d'y aller en boitillant avec mon genou, mais seulement là... La salle était comble, il n'y avait plus de place et elle dit qu'elle ne peut pas faire un atelier gigogne. Donc mardi prochain, j'irai un quart d'heure à l'avance et j'aurai mon tapis et je ferai du Feldenkrais.
Quel succès.
Sinon, je participe aussi à l'atelier bois le jeudi et vendredi. 2 heures le jeudi, 2 heures le vendredi, animé à la fois par un moniteur Jean-Clément et puis un autre Polo. Alors là, c'est pour moi une découverte sublime parce qu'on touche un matériau qui est sensuel, le bois. On choisit sa branche, on marque son prénom dessus, on ne sait pas où on va, mais avec les indications des moniteurs qui nous aident, eh bien, on apprivoise ce matériau, on ressent des choses, on teste par exemple la plane, c'est un curieux instrument qui permet d'enlever l'écorce du bois ou alors de faire des aplats. Et je ne sais pas, on chemine avec cette branche, on est à cheval dessus, on la tortille dans tous les sens, on fait attention de ne pas éborgner sa voisine, n'est-ce pas Virginie, qui travaille elle aussi son morceau de bois à côté de moi. On rit, on apprend, on laisse aller le mouvement, on crée, on peut pyrograver sa branche, on peut y faire des trous, on peut la transformer en lampe, en porte-manteau, enfin bref, vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec du bois. Et l'atelier poterie qui voisine et près de ses locaux d'hiver participe et le regard croisé des animateurs bois et poterie font qu'on réalise des objets avec les deux matériaux. Ça c'est beau, c'est magique. Je suis vraiment très heureuse d'y participer.
Ça s'entend, hein. Quelle passion. Virginie.
Alors oui, moi je participe à l'atelier musique, un petit peu moins en ce moment, l'atelier peinture.
Excusez-moi, l'atelier musique, vous jouez d'un instrument?
Non, pas du tout, j'ai pas cette compétence-là, j'essaie de chanter.
Ouais.
Vous en sortez très bien.
Ouais. Oh, merci. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des moniteurs qui savent jouer, qui ont le talent de jouer des instruments de musique. Donc, on est vraiment avec le micro, vraiment en condition. Voilà. On est en plus dans un lieu très, très sympathique, avec une bonne acoustique. Je ne connais pas grand-chose, mais j'ai l'impression qu'il y a un bon retour. Et voilà. Ce que je veux dire, quel que soit l'atelier, au-delà de ça, il y a quelque chose de très important, c'est le fait de se focaliser sur autre chose, c'est-à-dire se décentrer de nos problèmes, de tout ce qui peut être parasite, périphérique, et ça c'est capital. Et la deuxième chose que je mettrais sur la même ordre d'importance, c'est le plaisir, chose qui est très très rare quand on est dans une pathologie où parfois c'est très compliqué, très douloureux. Et le plaisir et le fait de se décentrer, voilà, pour moi, quel que soit l'atelier, c'est très libérateur et très bénéfique et salutaire et exutoire.
Tout est dit. Tout dit. On s'achemine vers la fin de cette émission. Un petit dernier mot peut-être avant de conclure.
On peut peut-être Florian. Rajouter que le club, comme j'ai dit tout à l'heure, fêtait ses 60 ans. Donc on va marquer le coup cette année en organisant une grande fête de la chaînée sur un temps un petit peu plus long qui va durer du vendredi au samedi pour les gens de l'extérieur et on continuerait à l'intérieur le dimanche. Donc voilà.
14 et 15 juin.
Voilà, on en reparlera de toute façon d'ici là, bien sûr. Avant de vous remercier, Mathilde, est-ce que on va entendre un petit morceau à la toute fin là, après s'être dit au revoir. Est-ce que tu peux nous reparler oui. d'astéréotypie. Ah là là, c'est dur à dire.
On va entendre le morceau Marie-Antoinette d'astéréotypie. Bah oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un groupe qui s'est formé au sein d'un IME avec des jeunes autistes. On voit que c'est un vrai outil de travail, en fait, ces ateliers. Et donc, on a eu la chance de les accueillir en novembre dernier. De les voir avant, de les voir sur scène, de les voir après, on se dit, mais c'est dingue la folie et en même temps c'est beau. Et ouais, on était très fiers de ça. Donc Marie-Antoinette, n'hésitez pas à aller voir le clip d'ailleurs, qui est vraiment magnifique aussi.
Je confirme. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je rappelle que l'émission Kaléidoscope peut être podcastée sur le site de studiosf.fr. À très bientôt à la radio.
Yes, c'est cool, ouais.
Je vais vous raconter l'histoire de Marie-Antoinette. Tout le monde croit qu'elle a été décapitée, mais en fait non, c'était son sosie. Marie-Antoinette, elle est partie de Versailles avec Louis XVI. Ils sont allés dans un sous-sol très profond sous Paris. Du coup, personne ne sait vraiment où ils sont, mais c'est vraiment très profond. Le mystère, c'est qu'on ne sait pas quand ils vont sortir. Marie-Antoinette, elle est très vieille. Elle a 500 ans, 500 000 ans. Enfin, ils ont 500 millions d'années peut-être. Ce sont des êtres très mystérieux dont peu de gens savent l'existence, seulement des gens qui s'y connaissent en histoire, mais vraiment. Ce sont des amis à eux qui vivaient à l'époque de Versailles qui leur ont donné ces noms-là. Avant, ils n'en avaient pas. Ce sont des êtres qui ont vécu bien avant l'époque du château de Versailles, Victor Hugo, les dinosaures. Marie-Antoinette et Louis XVI étaient les premiers êtres avant que la vie apparaisse sur Terre. Pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'air. Mais pour eux, c'était pas grave. Ce sont les seuls êtres à pouvoir vivre sans air. Ils étaient là quand la Terre était boule de feu. Ils viennent d'une planète loin du système solaire, une planète appelée Kepler. Quand la planète a explosé, ils se sont tenus par la main pour ne pas que les trous noirs les aspirent, pour ne pas que la galaxie les sépare. Ils ont avancé dans l'espace en se tenant la main, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur Terre. Ils se sont abrités des dinosaures à l'époque de la préhistoire dans une grotte. Ils sont sortis uniquement à l'époque où les villes ont commencé à être construites. Marie-Antoinette, c'est une belle femme, très élégante, très intelligente. Elle sait tout, elle est immortelle. Je ressens beaucoup d'amour pour elle. Je voudrais avec elle me balader dans les jardins de Versailles. La terre n'était que boule de feu. La terre n'était...